Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir Léana et bonsoir à tous. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Ils sont nombreux autour de la table pour parler rugby, Formule 1, cyclisme ce soir. De la gauche vers la droite, Ricardo Baroni, Romain Bonnet, Grégory Sirgue et Bruno Salvé. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir Léo.
Merci d'être une nouvelle fois avec nous sur Radio Rythme Bleu. On va bien évidemment ouvrir cette nouvelle émission en parlant de rugby, malheureusement pas comme les semaines passées, puisque chaque fois, tous les lundis, on était heureux d'annoncer la victoire de l'équipe de France. Ce lundi, malheureusement, on annonce une défaite. Bruno Salvé, une défaite en Écosse, 50-40, ça aurait pu être pire.
Oui, ça s'appelle une fessée, une correction. On peut trouver toute... peu d'excuses à cette équipe de France qui a vraiment déjoué ou qui est tombée vraiment sur une très forte équipe d'Écosse aussi. Donc les conditions étaient réunies pour les Écossais avec un terrain sec, c'est une équipe qui est énormément joueuse, qui met énormément de mouvement et on s'en est rendu compte. On l'avait abordé la semaine dernière en disant qu'il fallait se méfier de ces Écossais. Ben voilà, donc je pense que la stratégie au départ a peut-être pas été la bonne. Et puis surtout, l'adaptation tactique en cours de match n'a pas pu répondre à la vitesse qu'ont mis les Écossais, notamment par énormément de mouvements, mais d'éjections de ballons très rapides. Et puis surtout, ils ont franchi de plus assez facilement cette ligne défensive des Français. Donc quand on défend mal, ça laisse des espaces. Il y a une équipe en face qui avance et qui met du mouvement. Et puis avec un Finn Russell qui a été à la baguette et qui a dirigé de main de maître cette équipe écossaise. Et les Français n'ont pas pu et n'ont pas su répondre à ces assauts. Et donc ce sont logiquement perdu ce match.
Alors, oui. On va parler bien évidemment de toutes ces lacunes, notamment défensives des Bleus. Romain Bonnet, sur cette rencontre, est-ce qu'on peut dire, on l'a entendu, hein, un petit lapsus, largement, presque vous alliez dire, Bruno Salvé, largement défait par l'Écosse, mais non, il n'y a que 10 points d'écart à l'arrivée, alors qu'on a vu 80 minutes largement dominées par les Écossais. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, malgré la nette domination des Écossais, les Bleus ne sont pas si loin?
Ouais, il y a 10 points d'écart à l'arrivée, mais je crois qu'à 10 minutes du terme, il y a 30 points d'écart.
Oui, donc, 25-6 sur les 27-6 sur les derniers quarts d'heure.
Peut-être qu'aussi, quand le match est complètement plié du côté de l'Écosse, qui a quasiment 35 points d'écart, Sarti lâche un peu la bride. Nous, je trouve que nos entrants, pour le coup, c'est peut-être la stratégie qu'on aurait dû adopter dès le début, comme tu en as parlé, Bruno. On sait que les Écossais, ils sont très performants quand ils déplacent le ballon. Ce jour-là, ils ont été dans une forme olympique. On a toujours été un petit temps en retard par rapport à eux. Mis bout à bout, on prend 40 points en 40 minutes. Et quand on fait rentrer les gros porteurs, les Meafou, les Flamands, Barassi, Movaka, qui ont beaucoup plus porté le ballon, on a été dans l'avancée. C'est le moment où il y a eu le déclic. Baptiste Serein aussi qui fait une belle entrée. Donc tout ça fait qu'on finit le match à 10 points. Je pense qu'on peut finir le match à 25 points. Ça ne change pas grand-chose au match. Maintenant, c'est quand même positif pour nous parce qu'on réussit dans ces 10 dernières minutes à accrocher le bonus offensif. Ça fait qu'on reste quand même à égalité de points avec l'Écosse.
Toujours dans la course donc pour le titre, non plus pour le grand chelem comme on l'annonçait depuis quelques semaines. Ça y est, c'est terminé, il faut l'oublier. Mais on peut, l'équipe de France peut toujours remporter ce tournoi. Alors il y a des si, il faut.
L'équipe est toujours en tête.
Si la France gagne avec le bonus offensif, tout est fait, c'est fait. Mais. S'il y a victoire sans bonus offensif, c'est plus compliqué. Alors, on ne va pas aller dans les détails. Il faudra gagner le week-end prochain le crunch contre l'Angleterre.
Oui, le seul avantage, c'est que l'Irlande et l'Écosse vont jouer avant l'équipe de France. Donc, l'équipe de France saura exactement ce qui va se passer. Et moi, j'ai regardé justement toutes les projections. Si l'Irlande l'emporte avec ou sans point de bonus, ça ne change rien. La France, faut qu'elle gagne sans bonus. Le seul cas où il faudrait que l'équipe de France l'emporte contre l'Angleterre avec bonus, c'est dans le cas où l'Écosse battrait l'Irlande avec un bonus.
Et avec une différence de points aussi.
Non, juste avec le bonus, ça suffirait. Il passerait devant au point. Quoi. Donc après,
la France resterait en tête.
En cas d'égalité, ouais, comme le goal average pour l'instant de l'équipe de France est favorable, ça poserait pas de problème. Donc il va falloir être performant contre cette équipe anglaise.
On va y venir à ce prochain match, cette dernière journée. Restons sur ce Écosse-France. On l'a dit, ce qu'il a manqué, c'est défensivement. Les Écossais, à chaque fois que les Écossais sont entrés dans les 22 tricolores, Ça a marqué, ça a scoré.
Oui, ils ont mis énormément de vitesse. Et puis on l'avait évoqué la semaine dernière par rapport à la combustion de l'équipe de France. Et moi, j'avais donné mon avis. Je ne suis pas sélectionneur de l'équipe de France, mais j'avais donné un avis plutôt qui était différent par rapport à la combustion d'équipe qu'a lancé Galtier. Moi, je pensais qu'il allait mettre justement un pack performant, lourd, pour pouvoir recentrer cette défense écossaise, parce qu'on se rend compte quand on regarde le match, ils se sont très peu consommés sur les rucks. Après les entrants, les finisseurs ont justement, en jouant un peu plus dans l'axe, ont réussi à mobiliser plus de défenseurs et à dégager les couloirs, et les Français ont pu marquer aussi. Donc c'est vrai que peut-être que la stratégie n'était pas la bonne, mais bon, en tous les cas, le résultat, il est là. Maintenant, on ne va pas tirer à boulet rouge sur Fabien Galtier, sur son staff. Ils ont fait un bon début de tournoi, parce que je dis beaucoup dans la presse que tout le monde les critique, il faut virer l'entraîneur.
C'est la faute de l'entraîneur, mais on a quand même vu des joueurs, et notamment des leaders, Antoine Dupont, fantomatique.
Les leaders n'ont pas joué leur rôle, quoi. C'est vrai qu'on a... Quelque part, on se rend compte qu'Antoine Dupont est humain. Il arrive à louper ses matchs. Et là, c'était vraiment un match, à part le premier arrachage de balle où il va arracher le ballon dans les bras de Tupou, le tout, et qui ensuite écarte le jeu sur les ailes et amène le premier essai français. Ça a été un Antoine Dupont moyen, Ramos aussi. Quoi, les leaders de jeu n'ont pas émergé, les Olivon et ainsi de suite. Donc c'est vrai que toutes ces choses additionnées font que ça reste un match très très moyen de l'équipe de France.
Grégory, si vous partagez cet avis ?
Je partage totalement. Il y a une image, je trouve, qui résume assez bien le match. C'est le moment où Antoine Dupont rentre avec le ballon dans son en-but.
Oui.
Et il se retrouve complètement perdu, il ne sait même plus quoi en faire. Et il le passe en avant à son autre coéquipier, ce qui fait qu'il a mêlé aux 5 mètres. Quoi. Donc rien que ça, je trouve, ça résume la fébrilité sur le match.
Est-ce que c'est pas une image qu'on voit souvent en rugby à 7? Est-ce que ça l'a pas perturbé à ces moments-là, Romain Bonnet? C'est quand même, on a vu les Sevens avec les Calédoniennes qui disputent, j'en reparle puisqu'elles ont terminé quatrième à Vancouver aujourd'hui, l'équipe de France féminine avec les deux Calédoniennes, mais c'est quand même une image qu'on voit plus au 7 qu'au 15.
C'est sûr, de relancer les ballons comme ça, mais là, je pense pas qu'il s'est pas trompé de sport à ce moment-là, à mon avis.
Je veux pas en arriver
plus,
là, mais.
C'est plus, moi, je trouve que là où on s'est aussi beaucoup trompé, comme Bruno le disait dans l'adaptation de la tactique, c'est on a continué à faire notre jeu un peu de dépossession, à jouer des coups de pied par-dessus. On sait que c'est le jeu de Jalibert, il aime bien les coups de pied par-dessus. Mais il y a deux actions, moi, dans le match où je me suis dit, là, il y a un problème, c'est on enchaîne pour une fois les temps de jeu dans les 22 mètres écossais, où on a du mal à avancer, et les deux fois, à entre 5 mètres et 10 mètres de la ligne, alors qu'on n'a pas d'avantage, on fait un coup de pied rasant et on perd le ballon. Ça, quand on sait qu'on a du mal à garder le ballon, qu'on a du mal à avancer, et que justement, quand on les prend dans l'axe, on arrive à les perforer, il faut garder les ballons. Et ça, je pense que là-dessus, notre charnière a voulu surjouer. Quand on avait beaucoup de points de retard, on a voulu tout de suite... J'avais l'impression de voir une équipe de cadets qui a trop de points de retard et qui veut relancer à tout va.
Et qui connaît ses points forts et qui voulait jouer dessus. On l'a vu jouer Biel Diarré qui a essayé des ballons sur le côté aussi.
Qui voulait jouer dessus, mais qui s'est trompé. Et t'en parlais d'Antoine Dupont. Antoine Dupont, sur ce coup où il fait la passe en avant dans l'en-but, très sincèrement, il a le temps de se retourner et de dégager en touche, même si c'est à 15 mètres, à 20 mètres, c'est toujours mieux que de se retrouver à soit se faire intercepter dans l'en-but, parce que c'est possible, soit prendre une mêlée à 5 mètres. Donc je pense qu'on s'est un peu affolé quand on a vu qu'on maîtrisait pas le match, et c'est ça, moi, je trouve qui est le plus, je vais pas dire inquiétant, parce qu'on fait quand même un bon tournoi, et le match, finalement, comme tu disais, on perd à 10 points, mais je pensais que cette équipe avait les ressorts pour pas tomber dans ce genre de travers. Et justement, on l'a vu, quand les matchs se passent bien, comme sur les trois premiers matchs, on a réussi à bien dérouler notre jeu, à être solide sur la défense, à pas s'affoler. Et là, quand on prend le match par le mauvais bout, on sait plus quoi faire, on surjoue, on essaie de rattraper le score trop vite, alors que 80 minutes, c'est assez long pour quand même mettre une stratégie en place, je pense.
Oui, Bruno Salvet.
À noter aussi que la France a été énormément pénalisée, chose qui n'avait pas eu lieu depuis le début du tournoi. L'équipe de France a été exemplaire sur les trois premiers matchs avec très peu de pénalités. Là, l'équipe a été énormément pénalisée. Il y a un gros chantier avec cette mêlée. La mêlée qui ne tient pas, quoi. Je veux dire, si on, les Anglais ont,
oui,
ou les Britanniques,
en termes de match, hein,
on... Bah oui, on a eu deux ou trois pénalités sur mêlée, sur nos mêlées fermées. Donc les Britanniques disent no scrum, no win. Si on n'a pas de mêlée, on peut pas gagner. Et là, on en a eu malheureusement l'exemple. Donc il y a un gros chantier au niveau de cette mêlée et au niveau du pilier droit. Il nous faut un pilier droit pour suppléer à Tonio qui maintenant on le reverra plus. Par contre, il y a une bonne entrée là des finisseurs comme les appels Galtier avec à cet axe droit et notamment la rentrée de Bamba qui a fait un bon match et puis surtout avec Meafou derrière. Donc cet axe droit qui a remis de l'avancée dans cette mêlée française. Et quand on a une mêlée, on est beaucoup plus une mêlée qui est conquérante. On a beaucoup plus d'occasions de déstabiliser l'adversaire. On a eu le ballon, bien sûr. Hein. On a eu des soucis aussi en touche. Donc c'était assez brouillon comme prestation. Mais bon, voilà. Donc il va falloir maintenant se reprendre pour jouer nos meilleurs ennemis.
On va y venir justement à ce crunch. On parle de brouillon avant peut-être le chef-d'œuvre pour terminer face aux Anglais. Je sais pas qui on peut le dire et on va le dire puisque on a la chance d'avoir un grand supporter de l'Italie autour de la table qui a mis son maillot et maillot. Il a raison d'être fier.
Bravo,
parce
Ricardo.
Que c'est la première, une première pour l'Italie face à l'Angleterre, cette victoire ce week-end, les Italiens qui se sont imposés 23-18, alors la troisième défaite consécutive des Anglais, mais la première de l'Italie sur l'Angleterre. Ricardo Baroni, j'ai presque envie de mettre l'hymne national en fond pour vous laisser parler.
C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je ne m'y connais pas assez en rugby pour savoir exactement ce qui s'est passé au niveau tactique et tout, mais quand j'ai vu le résultat, je me suis dit non, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose, quoi. Est-ce que l'Angleterre, ils ont mis l'équipe B ou l'équipe C? Non, c'est pas du tout le cas. Ils progressent et chaque fois que j'écoute votre émission, on dit que l'Italie, elle progresse. Mais progresser et perdre, c'est une chose. Progresser et gagner, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. Et puis l'Italie s'emballe sur cette victoire et ça donne au public italien l'envie de suivre les prochains matchs. Donc c'est vrai que...
Les prochains matchs contre le Pays de Galles qui n'y arrive pas depuis plusieurs années, ça pourrait faire une belle fin de tournoi pour l'Italie face au Pays de Galles, donc un déplacement en terre galloise.
Oui, ça serait vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, surtout que j'aime bien revenir, on ne peut pas en dire autant du foot, de l'équipe nationale italienne de football. Donc on s'accroche à ce qu'on a. On a eu des super JO en Italie et là, quelque chose d'exceptionnel comme l'équipe de rugby qui gagne contre l'Angleterre. Donc c'est vrai que pour le public italien, ça fait énormément plaisir. Maintenant, de parler de tactique et de ce qui s'est passé, peut-être Bruno est plus capable de donner des détails sur ce match puisque c'est à vous de jouer contre l'Angleterre la prochaine fois, quoi.
Contre l'Irlande, ils étaient déjà passés pas loin. L'Italie, ils avaient montré beaucoup de compatibilité, donc c'était déjà un super match.
Ils auraient dû gagner ce match.
Et hein, les Italiens ont battu les Écossais aussi, il faut le signaler, lors de la première journée.
Dans des conditions dantesques quand même.
Bien évidemment.
Donc ça n'a pas favorisé le jeu écossais, parce que c'était vraiment une pluie tropicale qui tombait sur ce terrain. Donc c'est vrai que ça les a aidés, mais ils ont joué leur match. Et sur ce dernier match contre les Anglais, moi je l'ai regardé avec beaucoup d'attention. Et en direct en plus, donc c'était vraiment ils m'ont fait vibrer, ces Italiens, parce qu'ils ont joué jusqu'au bout. Ils sont appuyés sur une grosse mêlée, alors que la mêlée anglaise est quand même réputée, et je pense que ça va être difficile pour les Français si on trouve pas des solutions en mêlée. Ça va être difficile pour le dernier match contre les Anglais, et surtout sur une ligne de trois quarts entreprenante avec des initiatives, et le dernier essai italien est vraiment magnifique, avec un débordement sur l'aile, Menoncello qui remet à l'intérieur et ça marque entre les poteaux. Donc vraiment bravo à la squadra et on espère. Alors après, jouer les Gallois chez eux, vu les dernières prestations des Gallois aussi, ça va être compliqué, parce que les Irlandais ont bataillé quand même, ils recevaient les Gallois et ils se sont imposés de 27 à 17. Enfin, c'est vraiment une équipe galloise qui revient et qui revient avec des qualités, mais surtout avec un fighting spirit vraiment avec une envie d'arrêter cette spirale négative de défaite chez les Gallois.
Ouais, c'est surtout dans le caractère que les Gallois, il y a vraiment eu un tournant par rapport au début du tout, enfin, même les tournois précédents, on le voit même là contre la France, ils ont pris je sais même plus combien il y avait, mais il n'y avait aucune rébellion dans l'équipe.
54 à 12 pour
et
la France.
Et là on a vu contre l'Écosse, ils sont à une erreur d'inattention de gagner ce match. L'Écosse qui derrière bat la France à 50 points. Et les Irlandais en Irlande, ils sont allés vraiment les titiller. Et c'est surtout sur, pour le coup, eux, ils ont gagné leur duel. Ils ont été très agressifs. En défense, ils ont été très présents. Et après, bon, voilà, il manque peut-être un petit peu de talent et un petit peu d'expérience à tous ces joueurs gallois, mais nul doute que, en tout cas, le discours du nouveau sélectionneur a l'air de bien marcher et en tout cas à réveiller ces gallois.
Et ça réveille aussi un tournoi destination qui était promis peut-être à 2-3 équipes chaque année. Là, tout est relancé. La France est en tête avec 16 points, juste devant l'Écosse, enfin, en termes de différence, 16 points aussi pour l'Écosse, l'Irlande 14, l'Italie 4e avec 9 points qui pourrait finir sur le podium, l'Angleterre 6 points, le Pays de Galles qui a 1 point seulement. Voilà, malgré les défaites du Pays de Galles, les 4 défaites consécutives encore cette année, on sent qu'il y a un rééquilibrage des équipes. On le dit depuis plusieurs semaines, mais ça se voit au fur et à mesure des journées, Bruno Salvé.
Oui, mais après, c'est étonnant l'inconstance au niveau performance de ces équipes de l'hémisphère nord. On le voit très peu avec l'hémisphère sud, quoi. Je veux dire, quand on voit les Blacks jouer, les Blacks ils prennent jamais 50 points, ou les Sud-Africains non plus. Donc c'est difficile à expliquer. Alors que la plupart des équipes européennes avaient fait une bonne tournée de novembre en accueillant les équipes de l'hémisphère sud. On pense notamment aux Anglais qui étaient sur une douzaine de victoires consécutives, je crois. Et voilà. Et puis les Français qui ont du mal à s'installer. Et à avoir un niveau de performance qui leur permettrait de postuler sur un titre de champion du monde. On en parlait déjà la semaine dernière. Certains invités disaient bon, c'est pas la peine de jouer le tournoi, il faut aller tout de suite jouer la Coupe du Monde. Ben, on se rend compte que non, on n'est pas prêt pour la Coupe du Monde. Absolument.
Alors, un petit mot sur cette dernière journée. L'Irlande accueillera l'Écosse en ouverture. Donc, pour nous, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 1h10. Suivra Pays de Galles, Italie, 3h40 et enfin France-Angleterre à 7h10, un horaire plutôt agréable pour nous pour suivre la dernière rencontre plutôt que la nuit, le week-end dernier, le réveil à 1h10 qui pique un petit peu, mais bon, pour le plaisir, il faut se lever pour suivre l'équipe de France. Cette dernière journée décisive, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce France-Angleterre?
Ben, l'avantage des Français, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'Irlande et l'Écosse auront joué avant, donc ils sauront exactement ce qu'il va falloir faire. Donc gagner impérativement, sinon c'est mort. Mais gagner avec un bonus offensif ou pas, mais je pense qu'il faut accueillir ces Anglais et les respecter, même s'ils sont sur 3 défaites consécutives. Il faut les respecter et puis essayer de sortir un grand match pour entre guillemets, réconcilier l'équipe de France avec son public. Je pense pas que ce soit le public qui aime cette équipe, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Je lis beaucoup de commentaires d'anciens joueurs, d'anciens internationaux et de journalistes où on a vite fait de crucifier cette équipe, Galtier, son staff, alors que ils font quand même un travail remarquable.
Ils travaillent depuis plusieurs années, effectivement.
Oui, c'est compliqué. Après, tout le monde est sélectionneur. Hein. Il y a 50 millions de sélectionneurs, on est tous d'accord. Mais voilà, donc il faut s'imposer face aux Anglais. Et puis, si on peut s'imposer avec la manière et avec
pour bien terminer ce tournoi,
ce serait l'idéal. Voilà, je pense que un Dupont, il va pas se louper 2 fois d'affilée sur un match. Donc ça, voilà. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction et le sursaut de cette équipe et des leaders. Est-ce qu'ils vont pouvoir relever la tête? Je pense que oui. Et puis voilà. Puis on va passer, je pense, une belle nuit de rugby.
Et avant de passer à la Formule 1, on va faire un petit jeu. Vos pronostics pour la semaine prochaine. On commence avec vous, Bruno Salvé. On va noter tout ça et puis on remettra s'il faut.
Moi, je ne vais pas vous donner le score parce que. Mais je pense que je pense que l'équipe de France devrait l'emporter. Oui, j'espère. J'espère du moins.
Grégory Sirg.
Pareillement.
Victoire de l'équipe de France.
Non, j'irai pas jusqu'à dire facile, mais effectivement, on espère le sursaut d'orgueil. C'est là qu'on va voir s'il y a des vrais leaders ou c'est juste des fins techniciens.
Comme les techniciens qu'il y a autour de cette table et qui vont nous donner, j'imagine, 100% de victoire pour l'équipe de France, Romain Bonnet.
Oh oui, moi j'annonce un score. Hein. Moi je dis 34-12 pour la France avec un bonus offensif.
Vous l'aurez entendu la première fois sur Radio Rythme Bleu, 34-12. Et on termine avec vous, Ricardo Baroni.
Évidemment, la France, et j'espère avec un beau score. Comme ça, ça nous fera une belle émission de sport midable.
Et une victoire italienne?
Et je mets une petite pièce, oui, sur aussi. L'Italie, moi je mettrai une petite pièce sur l'Italie, bon, au Pays de Galles. Oui,
ouais. Allez, c'est noté, on réécoutera ça la semaine prochaine. On va passer à la Formule 1 tout de suite, puisque la saison a repris ce week-end. C'était du côté de l'Australie, pareil pour nous. Un bel horaire, 15h pour un Grand Prix, un dimanche après-midi, malgré le soleil que les fans ont suivi ce premier Grand Prix. Ça vous le premier, Grégory Sierck.
Nuit, effectivement, oui.
C'est ça.
Se lever à pas d'heure pour regarder les Grands Prix. Non, c'était en plus le premier Grand Prix de la nouvelle ère technique avec le nouveau règlement, donc avec beaucoup de curiosité.
On n'ira pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup de changements. C'est le ça. Premier, le plus visuellement parlant, c'est qu'il y avait 22 pilotes et non plus 20.
Tout
alors
à fait.
Sur ce Grand Prix, ils étaient que 20 puisque deux n'ont pas pris le départ
et après ça s'est écrémé très très vite aussi, donc au final ils ont fini à 15-16 concurrents. Oui, comme je le disais, beaucoup de curiosité. Je pense que ce Grand Prix ne permet pas pour l'instant de, si jamais on pose la question après, de donner un favori pour la saison, etc. Parce que en fait, les écuries, c'est la première fois qu'elles faisaient vraiment en condition réelle de l'exploitation des machines. Donc
parce
il va falloir encore quelques
essais avant.
Quelques essais, mais il y en a pas beaucoup. Là, le prochain Grand Prix, pareil, en Chine, il y aura une seule séance d'essais. Vu qu'il y a la course sprint qui reprennent, donc ils ne pourront pas encore bien se roder. Donc je pense que pour l'instant, les écuries, elles apprennent. On a même vu Alonso, je crois que c'est la première fois que je voyais ça, qui se sert du Grand Prix comme d'une séance d'essai, en fait. Ils l'ont même fait rentrer un moment pendant 8 ou 9 tours pour régler la voiture et le refaire partir, puis le refaire rentrer. Enfin,
on parle de Lance Stroll qui a fait ça, qui est parti.
Fernando Alonso.
Aussi.
Oui.
Parce que Lance Stroll est parti, s'est arrêté et a terminé 14 tours après tout le monde parce qu'il a eu un arrêt au stand pour avoir la voiture. Les deux d'Aston Martin qui se cherchent. Avec les nouveaux aussi, alors on peut en parler, Cadillac qui faisait sa première. Malheureusement pour Cadillac, Valtteri Bottas qui a dû arrêter.
Audi également avec Hülkenberg qui n'a pas pu prendre le départ.
Voilà, donc ça fait pas mal. Et puis on a aussi Oscar Piastri qui lui non plus n'est pas parti.
Il a fait comme Hadjar l'an dernier, il a crashé dans le tour de mise en chauffe des voitures. Donc premier Grand Prix qui me laisse, je sais pas comment dire, pas perplexe parce que j'étais content que ça reprenne, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Pour l'instant, vu que chacun est en train d'apprendre à maîtriser la voiture, on peut voir cependant. Que Mercedes a bien compris la réglementation, même si Ferrari, avec notamment Leclerc, les a titillés au début, c'était très intéressant. Les premiers tours, justement, je me souviens pas d'une saison où on voyait autant de dépassements dans les premiers tours.
Grâce à ce qui est nouveau, la récupération d'énergie,
notamment.
C'est ce qui fait aussi tous ces changements. Peut-être qu'on pourrait faire une émission de plusieurs heures pour expliquer tous ces détails.
Je pense que j'aurais pas les capacités techniques non plus de tout expliquer. Hein, donc,
mais très technique.
C'est ça, c'est assez technique. Mais Mercedes, Ferrari, on sent que la voiture a l'air bien née aussi. En tout cas, ils ont compris comment elle fonctionne, ce qui n'était pas forcément le cas des années précédentes. Donc ça, c'est un bon point. Et un point qui va faire plaisir à Ricardo, c'est Hamilton qui s'est remis la tête à l'endroit et qui devrait faire une meilleure saison que les précédentes où on le voyait traîner son spleen pendant toute l'année, donc là, ça devrait mieux se passer.
Alors, on va rappeler les Mercedes qui font 1 et 2, George Russell devant Kimi Antonelli, Ferrari 3 et 4, Charles Leclerc devant Lewis Hamilton, Lando Norris 5e, Max Verstappen qui est parti de la 20e place et qui termine 6e, ça aussi, il est encore là.
J'ai cherché avant l'émission, il n'y a que deux fois dans sa carrière où il est éliminé en Q1, c'était au Grand Prix de Russie il y a 5 ans, et là à Melbourne, sinon c'était jamais arrivé.
Et la preuve que malgré ça, il arrive remonter, à terminer 6e, pilote Red Bull, malheureusement pour son coéquipier Isaac Hadjar, le français, ça s'est terminé plus tôt que prévu. Il avait quand même fait P3 lors des qualifications.
P3, il était 5e je crois 5e. Quand il abandonne, donc
oui.
C'est dommage pour lui, surtout pour son premier Grand Prix avec sa nouvelle écurie, mais bon... La vitesse est là, donc pareil, à voir.
On signalera aussi le rookie Lindblad, Arvid Lindblad, qui termine 8e, première course, et qui marque déjà des points. C'est aussi une belle histoire.
Il a fait une belle course et il a fait également un bon départ. Le départ était un peu chaotique, il n'y a pas eu de casse, mais on a senti que les pilotes s'évitaient de quelques centimètres seulement, et il a su tirer son épingle du jeu dès le départ. Donc ça, bravo à lui pour une première course. C'est pas évident.
Et les Français, donc en milieu de tableau, Pierre Gasly 10e, Esteban Ocon 11e. Le rendez-vous est déjà pris pour la semaine prochaine ?
Semaine prochaine, Grand Prix de Chine et un peu plus tard dans le mois, Grand Prix de Suzuka au Japon.
En Chine, vous le disiez, il y a
avec
deux courses.
Avec la course sprint.
Course sprint le samedi ou dans la nuit de samedi à dimanche, je ne sais plus trop les horaires, je n'ai pas encore ce samedi.
Il y a course sprint, ensuite il y a la qualif et après il y a le Grand Prix.
Donc un nouveau week-end de Grand Prix en Formule 1. Donc le week-end prochain, ce sera en Chine avec, on l'espère, 22 pilotes cette fois sur le départ. Il est 17h30, on marque une petite pause dans ce journal et on reprend dans quelques minutes cette émission. Non, on me dit derrière la régie qu'il n'y a pas de publicité. Alors l'émission continue.
Je vous en prie, Léo, faites-vous plaisir.
On se fait plaisir. On se fait plaisir après la Formule 1 du cyclisme parce que c'est un week-end chargé, encore une fois, en sport international, sur la scène internationale. Riccardo Baroni, je me tourne vers vous parce que c'est en Italie que ça se passe là aussi. Le cyclisme, oui.
Oui,
c'est en Italie que ça se passe.
Oui, c'est vrai, mais le début de saison, c'était principalement en France, hein, l'Étoile de Bessèges, la Faune Ardèche, où on a vu un coureur français vraiment exceptionnel, puisque dans la montée des championnats d'Europe qui avait lieu sur la course de la Faune Ardèche, il a fait exactement le même temps que Pogacar, donc il a lâché tout le monde, il a fait une très très belle victoire ce jour-là, Paul Sexas. Donc on s'est dit, voilà un nouveau coureur qui va être vraiment exceptionnel à suivre. Ce qui me surprend sur ce coureur, c'est qu'en plus d'être grimpeur, il est très fort contre la montre. Donc ça nous promet un excellent futur pour les Français, qu'ils le voient déjà sur le Tour de France. Donc là, c'est des gros débats, doit-il le faire, doit-il pas le faire, puisqu'il n'a que 19 ans. Donc ça fait un coureur très jeune pour déjà le mettre sur le Tour de France. Maintenant, ce qui a été très beau sur ce week-end, ça a été les Strade Bianche, qui est une course assez, on va dire, particulière, puisqu'il y a une grande partie du parcours qui se déroule sur de la route non goudronnée, la route en caillasse, comme se rappellent les anciens de Nouvelle-Calédonie. Et donc là, il y a eu une sélection où je pense que s'il était mieux passé, Paul Sexas aurait pu suivre Pogacar.
Alors justement, je me permets de vous couper parce que 80 km, 70 km tout seul devant Pogacar, la course a été terminée. C'est quand on regarde une course de 200 km et qu'à 70 de l'arrivée, on voit Tadej Pogacar devant, on dit ça y est, c'est fini. Oui ou non?
Non, parce qu'à un moment donné, il s'est rapproché à moins d'une minute. Il y a des adversaires qui sont revenus de l'arrière, donc ça a fait un groupe pour poursuivre Pogacar. Maintenant, le problème pour cette course, c'est que dans les gens qui poursuivaient, il y avait beaucoup d'équipiers de Tadej Pogacar. Donc, c'est un peu compliqué. Même Paul Sexas s'en est plaint, puisqu'il y a des moments qu'il voulait passer. Son équipier à Pogacar del Toro l'a empêché. Donc, il s'est dit trois fois, je me suis fait bloquer, je n'ai pas pu relancer la course pour revenir sur Tadej Pogacar. Maintenant, Tadej Pogacar, si on regarde que ce soit les championnats d'Europe ou les championnats du monde, il fait un écart et après, il gère l'écart. Ça veut dire qu'il fait 1 minute 20 et après, il gère la minute. Ça veut dire quand derrière, ça accélère lui, il accélère devant. C'est vrai que la course perd de son prestige, mais il y avait quand même la bagarre derrière pour la deuxième place. Et je trouve que Paul Sexas et le Mexicain Del Toro, c'était très, très intéressant de les voir se battre. L'un protégeait son équipier qui était devant. Paul Sexas essayait absolument de revenir sur la tête de la course sur Pogacar. Donc je pense que ça nous promet des courses très intéressantes concernant ces deux coureurs qui sont Paul Sexas et Pogacar. Il faut savoir que ce début de saison est très différent pour ces deux coureurs. Paul Sexas a fait beaucoup de courses avant cette course, avant l'Estrade Bianche, et il reprend au mois d'avril. Tandis que Pogacar, c'était sa première course. Et lui, il envisage d'autres courses qu'il veut absolument gagner, par exemple Milan-San Remo, dont c'est un de ses objectifs principaux pour cette année. Donc ça nous a fait des courses un peu différentes, mais quand même à 81 km de l'arrivée, quand ils se sont, on va dire, tapés dessus, c'était très intéressant, puisqu'on d'habitude on voit les adversaires qui tout de suite acquiescent après l'attaque de Pogacar. Paul Sexas, non, il n'a pas plié bagage, non, il a essayé quand même pendant toute la course de revenir sur Pogacar. Le fait qu'il fasse deuxième, ça fait aussi plaisir, puisque Del Toro n'a pour ainsi dire pris aucun relais quand Paul Sexas poursuivait Pogacar. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'un Français vient titiller les champions qui ont l'habitude d'arriver devant. Donc ça nous promet de très belles courses pour le futur.
Et surtout quand on dit un Français, on parle d'un jeune, très jeune Français.
C'est ça, il n'a que 19 ans. Tout à fait, il n'a que 19 ans et il est complet parce qu'on a d'autres coureurs, par exemple David Godu qui fait partie des favoris sur Paris-Nice. Il est excellent grimpeur mais contre la montre il se prend toujours des minutes. Là il y a eu une course par étapes il n'y a pas longtemps où c'est Philippe Ogana qui gagne, il n'a pris que 13 secondes sur Philippe Ogana qui est spécialiste du contre la montre. Donc on voit que ça devient très très intéressant au niveau du défi entre ces deux coureurs. Je lisais un article sur Jonas Vingegaard qui disait que Paul Sexas devrait patienter et venir sur le Tour de France quand il a pris, on va dire, un petit peu de bouteille d'expérience, pour la simple raison qu'il est français. Le Tour de France, les Français, ça fait tellement longtemps qu'ils l'attendent, ce Tour de France, que ça risque d'être très compliqué pour lui au niveau du stress, d'être un coureur aussi attendu sur une grande compétition qu'on dit être la plus grande du monde, qui est le Tour de France.
Je vais me tourner vers les autres intervenants autour de la table. Quand on parle de cyclisme, forcément, il y a toujours ce nom de Tadej Pogacar qui ressort, Grégory Sirk. Quand on voit qu'il y en a d'autres qui arrivent, comme le dit Ricardo Baroni, à titiller ces grands champions, et en plus, quand il est français, j'imagine que ça peut relancer l'engouement pour le cyclisme.
Bah surtout quand on parle de Tour de France, les Français ont envie de se passionner pour un coureur à domicile qui va réussir à faire un podium et pourquoi pas à porter le maillot jaune jusque sur les Champs-Élysées. Donc ça, c'est sûr que les gens, c'est ce qu'ils attendent. Maintenant, comme le disait Ricardo, il y aura beaucoup de pression sur cette personne-là, quoi.
Donc Bruno Salvé, on parle souvent dans le rugby, la jeunesse, voilà, il faut les lancer, ces jeunes, mais est-ce que Paul Sexac, c'est pas trop jeune?
Après, je suis pas assez proche de son entourage et de ses performances pour le savoir, mais c'est vrai que l'engouement que représente le Tour de France est énorme quand on voit le monde qu'il y a sur le bord des routes, et puis ça fait tellement longtemps qu'un Français ne s'est pas imposé dans cette course mythique, que c'est vrai que tout le monde place ses espoirs sur ce jeune coureur. Donc après, il faut aussi tempérer, il faut pas lui mettre trop de pression sur les épaules, parce que ça peut aussi le déstabiliser. Des fois, c'est un peu le défaut qu'on a en France, hein, c'est de
très vite mettre en avant,
voilà,
certains,
mettre en avant les athlètes en le disant c'est le meilleur et ainsi de suite, et puis ça le dessert plutôt qu'autre chose, quoi. Donc il faut être prudent. C'est un jeune talentueux qui a des qualités, comme disait Ricardo, qui a d'excellentes qualités. Voilà, il faut qu'il se construise, et je pense qu'il y a un staff autour de lui qui est là pour justement l'accompagner dans sa performance.
Ricardo Baroni,
pour suivre ce que dit Bruno, il y a l'équipe Decathlon CGM qui s'est restructurée, vraiment quelque chose dans l'objectif d'apporter Paul Sexas au Tour de France dans de grandes conditions, et les conditions les meilleures. Et ils sont en train de structurer, ils ont même engagé des grimpeurs pour aider Paul Sexas, sans aucune obligation pour cette année, hein. Mais vu les résultats qui arrivent et vu ce qui se passe au niveau de ces résultats à Paul Sexas, donc moi, ce que j'attends avec impatience, c'est de voir la prochaine course, qui est les Tours des Pays Basques, pour Paul Sexas, voir comment il gère cette pression, puisque maintenant, en début de saison, c'était plutôt une découverte. Maintenant, il va falloir qu'il confirme, et là, ça va être un petit peu peut-être plus compliqué, en sachant que la dernière course par étape qu'il a fait, il a fait deuxième derrière Ayuso, en faisant, comme on disait tout à l'heure, un super contre-la-montre. Donc moi, j'attends confirmation. Personne n'a décidé au niveau de l'équipe s'il faisait ou il ne faisait pas le Tour de France. Ils attendent peut-être d'autres courses par étape pour
des
voir...
Des confirmations
voilà,
avant
tout
de
à fait. C'est ça, ouais.
Toujours est-il que peut-être qu'il était, il va commencer à être connu aussi, hein, donc il va être peut-être beaucoup plus surveillé maintenant dans le peloton. Il va être beaucoup plus marqué par les adversaires,
par les équipiers. Quand on fait troisième au championnat d'Europe, puis qu'on fait un super championnat du monde comme lui, il est surveillé. Hein, ça, c'est clair et net. Ouais. Surtout que quand on voit les courses et qu'on regarde les courses, il y a tous ses équipiers qui sont autour de lui, et on voit qu'il est bien entouré et qu'on cherche à l'apporter le plus loin possible dans les meilleures conditions possibles. Donc je pense que les coureurs comme Tadej Pogacar ou d'autres, ils savent très bien qui c'est, et il a fait vraiment l'année dernière un super championnat d'Europe où il finit sur le podium à côté de Pogacar et Remco Evenepoel. Donc là, je pense que maintenant il commence à le connaître, et ce qui est bien avec ce coureur et que j'apprécie, c'est de voir qu'il est toujours humble, tranquille. Il est loin d'avoir la grosse tête dans ses déclarations, et ça, c'est très intéressant pour participer à des tours qui durent 3 semaines, d'être un coureur relax, sans aucun stress à ce niveau-là.
Alors, on va suivre la suite de la saison de Paul Sexas avant le Tour de France et les grands tours. Avant ça, il y a le Paris-Nice qui a démarré la nuit dernière pour nous. Une première étape remportée par l'Américain Lamperti. Le premier Français, 10e, Axel Zingel. Voilà, première étape, ça y est, c'est lancé. Il y aura une deuxième, puisqu'il y en a d'autres derrière, une deuxième ce soir avec 187 km de plaine. Une arrivée au sprint, c'est quoi? C'est le départ, on lance ce Paris-Nice
Là, actuellement, on vit une période très particulière, puisqu'il y a Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, qui sont deux courses par étape. Vous avez les coureurs qui participent pour essayer de gagner Paris-Nice, et vous avez d'autres coureurs qui préparent la classique qui est Milan-San Remo, qui, une victoire sur Milan-San Remo, vous assure pour toute l'année une aura au-dessus de la moyenne. Donc, il y a des coureurs comme Van Der Poel qui sont allés à Tirreno-Adriatico qu'on risque de même pas voir, parce qu'ils préparent cette course qui est Milan-San Remo de plus de 200 km. D'autres à Paris-Nice qui font exactement la même chose. Donc, il y a un groupe de coureurs qui vont viser le classement général, dont Jonas Vingegaard qui y est, qui a quand même gagné deux Tours de France. Et il y a d'autres coureurs qui seront présents à Paris-Nice et qui font partie donc des gens qui veulent gagner la course par étape, mais qui ne seront pas présents à Milan-San Remo, comme Lenny Martinez, comme David Gaudu qui espère, ou Kevin Vauclin qui espère faire un super résultat. Tirreno-Adriatico, c'est exactement la même chose. Il y en a qui sont sur place comme Roglic ou d'autres coureurs comme ça pour essayer de gagner le classement général. Et vous avez d'autres coureurs comme Van Der Poel ou Wout Van Aert qu'on risque de même pas entendre parler. On va même pas savoir s'ils sont sur la course parce qu'ils visent qu'une seule course qui est Milan-San Remo qui a lieu le samedi 21.
Mais on suivra bien évidemment cette course avec grand intérêt. 17h42, la fin de l'émission approche. On va passer à vos coups de cœur, messieurs. On va commencer à gauche, Riccardo Baroni.
Bah, le coup de cœur, il est évident, hein, la victoire de l'Italie sur l'Angleterre.
Qui en appelle d'autres, on l'espère.
Espérons.
Romain Bonnet.
Mon coup de cœur, ce sera sur du local, parce que ce week-end a eu lieu la Tactical Race, donc c'était une sorte d'Irox qui a eu lieu à Nouméa, donc un mélange entre de la course à pied et de, on peut dire, une sorte de crossfit.
Une course hybride,
c'est ça. Il y a eu vraiment beaucoup de participants, il y a eu un bel engouement, et c'est surtout un gros félicitations à l'organisation parce que ça s'est vraiment super bien passé. Il n'y a pas eu de couac, c'était vraiment super pour les participants comme pour les spectateurs. Donc bravo à la Tactical Race.
Là aussi, comme pour l'Italie, une première qui en appelle d'autres pour ces courses hybrides sur le territoire. Grégory Sirg.
On parlait de reprise des sports mécaniques. Également au niveau local, c'est ce mois-ci que la saison reprend, avec notamment en rallye, avec à la fin du mois le rallye de Poya le dernier week-end de mars. Donc un coup de cœur tout particulier à l'organisation qui ne va pas chômer au cours du mois qui vient pour tout organiser.
Et vous suivrez bien évidemment hein, tous les courses, les rallyes, le drift aussi sur Radio Rythme Bleu, puisqu'on est à chaque fois bien évidemment présent sur ces différents rendez-vous. On va terminer à ma droite avec vous, Bruno Salvé, pour votre coup de cœur de la semaine.
Alors, coup de cœur pour nos deux jeunes femmes calédoniennes qui ont participé au tournoi Seven Series à Vancouver et qui ont représenté le pays au niveau de l'équipe de France. Donc, Yolaine Yango qui fait un retour remarqué, qui a été rappelé par le staff de l'équipe de France. Et puis Anaïs Cogny qui débute sa carrière internationale alors que Yolaine la termine. Mais voilà, donc le passage de relais se fait en plus sur le terrain. Et puis, elles se sont bien comportées. Elles finissent au pied du podium à la quatrième place. Donc, un grand bravo à nos filles de marée. Voilà.
Avec un essai en petite finale pour la Calédonienne.
Absolument. Et puis, elles ont marqué chacune leur essai contre la Grande-Bretagne aussi. Donc, voilà. Belle performance de nos jeunes, quoi, de nos maréennes. Voilà.
Ça fait toujours plaisir de marquer contre les Anglais.
C'est ça. Magnifique. Pour terminer cette émission, 17h45, dans quelques secondes, Léana Colombo qui prendra le relais pour Info Soir. Merci messieurs d'avoir été avec moi autour de cette table. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.